Bonsoir à tous. Yannick Jadot sera le candidat écolo à la présidentielle, d'une courte tête face à Sandrine Rousseau. On sera sur place à Pantin où les deux candidats ont pris la parole il y a quelques minutes, dans un instant. Et pendant ce temps, la primaire LR bousculée par celui qui occupe l'espace en ce moment, Éric Zemmour. Le groupe Les Républicains a mis les points sur les i aujourd'hui. Dans l'actualité encore, le désarroi de la communauté franco-algérienne après l'annonce de la France d'une réduction de moitié du nombre de visas accordés aux Marocains et aux Algériens. Bientôt la fin des fermetures de classes systématiques en cas de Covid. Le principal syndicat du primaire est plutôt pour. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures face à la flambée des prix de l'énergie. Et la consultation chez les psychologues remboursée sur prescription dès l'âge de 3 ans, l'annonce a été confirmée. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on parle de contraception féminine, puisque la contraception masculine, comme chacun sait, n'est pas encore d'actualité. Une étude en tout cas de l'Agence du médicament, une fois de plus, montre que les jeunes femmes délaissent la pilule. Elles réclament des méthodes moins violentes pour leur corps. Elles connaissent les effets secondaires. Elles vont de plus en plus vers les stérilets en cuivre notamment, donc sans hormones. Une tendance qui n'est pas neuve, mais qui devient vraiment une tendance de fond. On en parle ce soir au 01 45 24 7000.
France Inter. On connaît donc désormais le vert qui battra la campagne. Yannick Jadot, vainqueur de la primaire Europe Écologie Les Verts, 51% des voix face à Sandrine Rousseau et un premier discours de combat.
Nous sommes toutes et tous concernés par les chocs climatiques, l'effondrement du vivant, les pandémies et les maladies chroniques liées aux pollutions et à la malbouffe. J'appelle ce soir à nous rejoindre les humanistes, les progressistes, les victimes de ces chocs comme celles et ceux qui déjà innovent, inventent, agissent dans les fermes, dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les associations, dans les collectivités. Je les appelle à transformer avec nous la résignation en mobilisation, la colère en action, l'espoir en victoire.
Yannick Jadot qui s'exprimait il y a quelques minutes depuis une péniche en Seine-Saint-Denis après une accolade rapide avec Sandrine Rousseau tout à l'heure. Plus radicale, elle fut la surprise de cette primaire. 122 000 inscrits, plus de 100 000 voix exprimées au second tour. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
C'est donc ce soir la revanche du pragmatique.
Oh malheureuse, ne dites surtout pas ça, un écologiste, tous le disent la main sur le cœur. Et sur la Bible, le programme présidentiel d'Europe Écologie des Verts, l'écologie politique est nécessairement radicale. Mais il est vrai, Hélène, que le profil de l'eurodéputé est plus consensuel. L'écologie de gouvernement qu'il défend, son expérience d'eurodéputé, l'attention qu'il a portée pendant la campagne aux questions régaliennes, en fait un candidat 13e République, même s'il ne rééditera sans doute pas son soutien à des policiers devant l'Assemblée nationale, ce qui lui a valu une volée de bois vert en interne. Plus pragmatique. En effet, là où Sandrine Rousseau, l'écoféministe, très investie dans les questions du genre, de l'intersectionnalité, apparaissait comme plus clivante. Elle assume d'ailleurs de porter aux côtés Yannick Jadot, qu'elle soutient désormais, sa part de rupture et de radicalité, Hélène.
Laurence Perron, vous restez avec nous. Le temps d'écouter justement les premiers mots de Sandrine Rousseau. Elle s'est rangée, vous l'avez dit, derrière le vainqueur, tout en défendant son positionnement.
Nous avons porté une nouvelle voix dans cette campagne, une nouvelle manière d'incarner l'engagement. Nous avons prouvé que l'urgence climatique nécessitait une mobilisation radicale et que le délitement social appelait des réponses franches et sincères. Le temps des demi-mesures et des renoncements est révolu. Ensemble, avec tous les écologistes, nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure.
Le camp écologiste va donc partir uni. Laurence Perron, est-ce que ça change un peu la physionomie de la présidentielle à gauche ?
Eh oui, ça rebat un petit peu les cartes. On a pu le constater en écoutant certaines horreurs proférées sur les plateaux télévisés. Sandrine Rousseau était devenue un peu la candidate punching ball idéale de l'extrême droite et plus généralement de tous ceux qui se pourléchaient déjà les babines en imaginant taper les sorties de la candidate dite du woke et de l'indigénisme. Jadot en selle, cela désarme notamment le PS qui répète à l'envi que les écologistes ont un problème avec la laïcité et la République. Yannick Jadot est plus radical aussi qu'Anne Hidalgo et il pourrait prendre au PS tous ceux que la conversion du parti à l'écologie ne convainc pas. Et puis, Sandrine Rousseau Rousseau a amené à elle une partie de l'électorat qui hésite à refaire confiance à Jean-Luc Mélenchon. La direction du parti s'attelle d'ailleurs dès demain à reprendre les discussions de l'unité, mais derrière leur candidat.
Laurence Perron du service politique et le candidat écologiste Europe Écologie Les Verts à la présidentielle est donc Yannick Jadot, vainqueur ce soir de la primaire face à Sandrine Rousseau. Et à droite, il faudra attendre le 4 décembre pour connaître le nom du candidat qui aura l'investiture LR à l'issue du congrès où seuls les adhérents auront droit de voter. Le parti s'est mis d'accord là-dessus, mais il lui faut encore s'entendre sur l'homme qui trouble le jeu ces dernières semaines. Éric Zemmour occupe le vide, tacle à droite et déstabilise certains élus réfléchissant même à l'intégrer à la primaire. La réunion de groupe ce matin à l'Assemblée a tenté de trancher le débat, Anne Souhaitemont.
Un scandale, selon un député LR. Une poignée de semaines après la prise de position fracassante d'Éric Ciotti en faveur d'Éric Zemmour, en cas de second tour face à Emmanuel Macron, c'est cette fois l'eurodéputé François-Xavier Bellamy qui a mis le feu aux poudres à droite sur le plateau de Public Sénat hier.
Moi, je crois qu'Éric Zemmour a le mérite de poser une question fondamentale qui est celle de la capacité que nous aurons de préserver ce qui nous lie, ce qui nous unit.
Des déclarations qui ont monopolisé 40 minutes de la réunion ce matin à l'Assemblée. À la tribune, Christian Jacob, patron du parti, jugé trop tiède jusque-là, et Damien Abad, chef de file des députés LR, opération clarification.
Oui, moi j'ai voulu tout simplement stopper cette hémorragie qui n'est pas acceptable. Pour nous, Zemmour à la primaire, c'est non. Zemmour au congrès, c'est non. Moi, je me suis engagé dans la droite républicaine. C'est pas pour faire ami-ami avec l'extrême droite ou la droite extrême.
Écœuré et manifestement inquiet par les sondages, le député Pierre-Henri Dumont, soutien de Xavier Bertrand, s'énerve des positions ambiguës de certains. Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen, s'énerve-t-il.
Enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Zemmour, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Quelqu'un qui est encore sur des thèmes de ce qui a fait Pétain et que c'était pas trop mal lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment l'avenir et la vision que je me fais de l'avenir de France.
Il y a 2 ans, Éric Zemmour était invité en grande pompe au siège du parti devant une salle comble. Il avait été accueilli par un Éric Etissi chez lui, lancé par le patron d'alors, Laurent Wauquiez.
Et à 7 mois de la présidentielle, la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, déroule ses propositions en matière d'immigration. La priorité nationale et la maîtrise de l'immigration, voilà ce qu'elle veut inscrire dans la Constitution via un référendum. Comment réplique pour afficher l'action du gouvernement en matière d'immigration ? Cette annonce, aujourd'hui, la France va réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains et aux Algériens et d'un tiers ceux délivrés aux Tunisiens, accusant ces trois pays de ne pas jouer le jeu quand il s'agit de récupérer leurs ressortissants sous le coup d'une reconduite à la frontière. Décision injustifiée, regrette le Maroc, et même incompréhension au sein de la communauté franco-algérienne. Mathilde Dehimi a rencontré Tahar, restée en France après ses études.
Tahar n'a jamais pu accueillir sa mère dans son petit appartement parisien. Il y a 2 jours, il lui propose de refaire une demande de visa.
Je lui ai demandé de reprendre rendez-vous. On voulait qu'elle vienne ici au mois de décembre pour les fêtes. Notre réunion à Paris va être retardée de quelques mois ou voire années.
À la déception s'ajoute l'amertume, car demander un visa est de plus en plus compliqué ces dernières années. Attestation d'un logement suffisamment grand, fiche de paix de la mère et du fils ne suffisent pas toujours. En 2017 et 2018, la mère de Tahar a essuyé 2 refus.
Le motif de refus a été que ça n'était pas suffisamment justifié que la personne allait retourner en Algérie après le séjour en France. Ce qui est assez étonnant parce que ma mère travaille là-bas, elle est assez âgée, elle n'a pas l'intention de venir vivre en France. Et donc c'est une décision souvent vue avec beaucoup d'injustice du côté algérien.
Tahar s'interroge sur cette décision du gouvernement français à 7 mois de la présidentielle. Cela ne résoudra rien, dit-il.
Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de départs de personnes dans des bateaux. Ces personnes-là, s'ils veulent venir en France, ne passent pas par des demandes de visa. Donc là, on est en train d'incriminer des personnes qui passent par des procédures légales pour demander un visa, alors que c'est pour faire face à une immigration clandestine. C'est assez difficile de comprendre la décision du gouvernement.
Le franco-algérien peut lui faire l'aller-retour entre les deux pays, mais c'est devenu très difficile, dit-il, à cause des restrictions sanitaires drastiques côté algérien.
Reportage Mathilde Dehimi. Et puis, à défaut de méga contrat australien, l'industrie française de l'armement vend 3 nouvelles frégates à la Grèce. Un contrat à 3 milliards d'euros et une nouvelle occasion pour le président français de vanter une Europe de la défense.
Et à 19h09, Hélène, au procès des attentats du 13 novembre, les victimes commencent à prendre la parole.
C'est le début des témoignages, oui, des parties civiles, et cela va durer 5 semaines. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Hélène.
Les tout premiers appelés aujourd'hui étaient les gendarmes de la garde républicaine qui étaient aux abords du Stade de France le 13 novembre.
Oui, il montait la garde à cheval pour ce match de foot amical. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, résume le major Philippe. Et puis, il a entendu une déflagration. Dans son dos, un homme hurlait et il a vu une jambe nue qu'il a d'abord prise pour celle d'un mannequin avant de réaliser qu'il s'agissait d'un kamikaze. Puis, l'instant d'après, une deuxième explosion, une pluie de boulons, des cris, du sang. Ces gendarmes n'ont pas été blessés physiquement, mais 6 ans après, à la barre, ils posent leur képi devant eux et les uns après les autres, ils se mettent à pleurer. Pierre, gendarme à la retraite, confie à la cour qu'il est toujours suivi en psychiatrie. Il reste traumatisé par les kamikazes.
Il n'y a pas que le premier kamikaze. Il y a aussi, je dirais, un deuxième kamikaze qui va se faire exploser devant nous. Alors là aussi, il y a la vue, il y a l'odeur, il y a le sang, il y a du corps partout, des trucs qui voilà. Et quand vous rentrez de service, que 2 heures après, vous repartez encore en service. Parce que cette nuit-là, c'était une nuit de folie sur Paris. Eh bien, vous ne pouvez pas rester insensible.
Un commandant de gendarmerie se mord les lèvres pour retenir ses larmes et conclut « Nous sommes des gens aguerris. Quand je constate dans quel état ça peut nous mettre, je mesure toutes les souffrances des victimes civiles. » Manuel Dias, chauffeur de bus, est mort au Stade de France. Les gendarmes n'ont pas pu le ranimer.
Sophie Parmentier avec Sandrine Malon en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. 12 millions de Français souffrent de troubles psychiques. La santé mentale a pourtant été longtemps mise sous le tapis, comme refoulée. Le Covid a fait exploser le sujet. Jusqu'à ces annonces aujourd'hui aux assises de la psychiatrie. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Le premier enjeu, Véronique, c'est bien de lever les tabous.
Oui, on ne parle pas assez de santé mentale. Le grand public n'y est pas assez sensibilisé. Il manque de repères pour détecter les situations de détresse. Il faut que ça change. Emmanuel Macron veut encourager la prévention en la matière, que soient créées des formations au premier secours en santé mentale et qu'on en parle aussi dès l'école. Les enfants, dit-il, sont capables d'entendre ce message.
Il est quand même étonnant que nous ayons considéré, parce qu'il y avait une épidémie, que nos enfants étaient capables de comprendre qu'il fallait porter un masque parce qu'il y avait un virus, somme toute pas si simple à comprendre, mais qui ne serait pas apte à comprendre des messages simples sur d'autres questions de santé publique.
Alors rentrons dans le dur, Véronique. Quelles sont les grandes annonces ?
Oui, première mesure forte, les consultations remboursées chez les psychologues volontaires. 40 € la prise de contact, 30 € ensuite, sur prescription médicale. L'objectif, c'est que le recours à un professionnel soit facilité. Patrick Ange Raoult, le secrétaire général du syndicat national des psychologues, et lui, vent debout, ça va paupériser, dit-il, la profession, avec des consultations au rabais.
Ça peut pas le faire. C'est une psychologie low cost pour une population pauvre dont on se moque.
Alors ça, c'est ce qui fâche. Beaucoup plus consensuel, les 800 poste annoncé pour renflouer les centres médico-psychologiques dont les délais d'attente dépassent souvent les 18 mois, en pédopsychiatrie notamment. Applaudit aussi l'affirmation qu'il faut plus de moyens pour la psychiatrie à l'hôpital. Cédric Lemoigne est psychiatre à l'Hôtel Dieu.
Il y a une reconnaissance assez claire du fait que ce qui nous manquait, c'était aussi les moyens depuis des années. Le dire aussi clairement, c'était attendu par la profession.
Plus de financement annoncé aussi pour la recherche. Reste la perte d'attractivité du secteur. Les étudiants en médecine comme les infirmiers boudent la psychiatrie. Est-ce que ces assises permettront de faire évoluer la situation ? Affaire à suivre.
Dossier signé, Véronique Julia. Didier Raoult qui semble ouvrir la porte à un départ de l'IHU de Marseille. C'est une vidéo repérée par le service web de France Inter. Le professeur se plaint d'être harcelé, de faire l'objet d'insultes en France et promet une surprise au mois de novembre, laissant entendre un départ. À lire donc sur franceinter.fr. Plus de la moitié des départements métropolitains sont passés sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. L'épidémie régresse, alors l'école va tester un nouveau protocole dans une dizaine de départements. Quand un cas sera détecté, tous les élèves de la classe seront testés et seuls les positifs resteront chez eux. Ça va dans le bon sens pour Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP, le premier syndicat du primaire.
C'est une question qui se posait depuis un certain temps, de ne pas fermer les classes et d'avoir justement la possibilité de tester massivement et de tester tous les élèves. Alors nous, on va plus loin parce qu'on aimerait bien que ça se fasse pas seulement là où il y a des cas positifs, mais que ça se passe en amont et qu'on teste tous les élèves et que l'on permette à ceux qui sont négatifs d'aller en classe et ceux qui sont positifs de rester à l'isolement. C'est quelque chose qu'on défend comme le conseil scientifique depuis un certain temps. Là, c'est un premier pas. C'est dans 10 départements. C'est expérimental. On va voir comment se met en œuvre l'expérimentation. l'expérimentation. On va tester quand il y aura un cas positif dans une classe. Le risque, c'est qu'il y en ait dans les autres classes et on ne testera pas les élèves des autres classes. Et on sait que les enfants sont souvent asymptomatiques. Donc, c'est une question complexe, mais c'est un premier pas qui pourrait permettre d'éviter de fermer des classes.
La secrétaire générale du SNU-IPP, invitée du 13-14 ce midi. Votez le plus vite possible l'appel de l'actrice Lynn Renaud aux députés qu'elle a rencontrés en personne aujourd'hui à l'Assemblée. Elle qui milite pour le droit de mourir dans la dignité. Elle qui est venue soutenir une proposition de loi pour le droit à l'euthanasie. Antoine Gignot.
Droite derrière un pupitre, elle égrène les messages.
Il voudrait mourir. Entouré des chiens.
Des courriers reçus ces derniers mois qui tous parlent de fin de vie.
J'en reçois par centaines.
Le pays attend un changement, martèle Lynn Renaud, entouré de députés de toutes les sensibilités politiques.
88% des Français veulent l'euthanasie. Écoutez, c'est en Belgique, c'est en Suisse, c'est au Portugal. Ça sera le prochain pas dans la liberté.
Un pas qui reste pourtant difficile à franchir. La proposition de loi sur la fin de vie, examinée en avril dernier à l'Assemblée nationale, n'a pas pu être votée en intégralité, faute de temps, à cause des 3000 amendements déposés par les opposants, explique Olivier Falorni, qui porte le projet.
Aujourd'hui, il s'agit de continuer le combat. Cette loi, dont l'article 1, instaure le droit à une aide médicalisée au décès. Elle est suspendue. C'est-à-dire qu'elle peut reprendre son cours à tout moment.
Encore faut-il le vouloir. Le courrier envoyé par 296 députés au Premier ministre Jean Castex au mois de mai pour demander la reprise des débats est resté lettre morte. Pas d'écho non plus à l'Élysée. Lynn Renaud explique avoir parlé du sujet à Brigitte Macron en espérant qu'elle en touche un mot à son mari.
Reportage Antoine Gignot et puis les prix de l'énergie qui flambent et qui inquiètent l'exécutif au point que le Premier ministre Jean Castex cet après-midi à l'Assemblée a promis de nouvelles mesures dans les tout prochains jours.
Et c'est dans l'enfer des labels que l'on plonge à présent.
Label rouge, bleu, blanc, cœur, c'est qui le patron? On ne les compte plus, mais peut-on s'y fier? Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
C'est l'UFC Que Choisir, Greenpeace, WWF France qui s'en rend compte. Le cahier des charges n'est pas toujours très précis. Il y a un grand écart entre les promesses et la réalité, notamment, on va prendre un exemple, avec les fromages d'appellation contrôlée.
Oui Hélène, les fameuses AOP pour le Saint-Nectaire, le Cantal et le Munster. L'UFC Que Choisir dénonce des productions d'entrée de gamme très peu différentes finalement des productions industrielles. Le cahier des charges autorisant l'utilisation de lait pasteurisé et n'étant pas très regardant sur la race des vaches.
Alors pareil pour le label rouge.
Un label rouge mérité pour la volaille et le bœuf, mais pas pour le porc. L'association de consommateurs note des exigences minimalistes qui ne garantissent pas des produits de qualité supérieure. Le risque donc, acheter plus cher des produits qui ne sont pas meilleurs.
Alors là, on vient de citer deux labels très connus, mais les associations parlent de jungle des labels.
Oui, trop de labels, effectivement. Certains privés, comme C'est qui le patron ou Bleu Blanc Cœur, intéressant pour certains produits, mais pas pour d'autres. Difficile donc, voire quasi impossible pour le consommateur de s'y retrouver.
Et puis il y a une appellation issue du Grenelle de l'environnement qui est loin de faire l'unanimité.
Oui, c'est la HVE pour haute valeur environnementale, censée récompenser des productions entre le conventionnel et le bio. Mais le cahier des charges est indigent, dénonce le WWF, et les bénéfices pour l'environnement quasi nuls. Pourtant, les agricultures qui en bénéficient recevront dans le cadre de la future PAC des aides vertes, au même titre que les agriculteurs en bio dont les effets sur l'environnement sont réels. Les associations demandent donc au pouvoir public d'être plus exigeants dans leur cahier des charges et de réserver les aides aux seuls labels qui ont fait leur preuve.
Agnès Soubiran, merci à vous. Les stars sont là, mais maintenant il faut apprendre à jouer ensemble. Le PSG est attendu ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions, face à la redoutable équipe de Manchester City. Et on pousse la porte à présent d'un lieu unique. Après 10 ans de fermeture pour travaux, la bibliothèque Richelieu à Paris s'apprête à rouvrir, vieille de 300 ans. Elle a été entièrement rénovée et Isabelle Pasquier a pu la visiter avant tout le monde.
Le manuscrit d'À la recherche du temps perdu, les partitions du Don Giovanni de Mozart, des photos de Nadar et Cartier-Bresson, la bibliothèque Richelieu va bientôt retrouver ses 20 millions de manuscrits, photos, partitions, estampes, monnaies et 800 000 cartes. Avec ses longs travaux, la bibliothèque s'offre une nouvelle respiration avec des espaces plus aérés, de sublimes salles de musée comme la galerie Mazarin, un jardin signé Gilles Clément et surtout l'ouverture au public de la mythique salle ovale. Laurence Angèle, présidente de de la Bibliothèque nationale de France.
On garde une dimension de lecture réservée aux chercheurs, mais surtout, on veut ouvrir ce bâtiment qui est extraordinaire. Donc ça va devenir un palais avec des décors somptueux qui se visitent, un musée qui va raconter toute l'histoire des collections avec des trésors absolument incroyables, le trône de Dagobert, mais les manuscrits de Victor Hugo et jusqu'aux œuvres du XXIe siècle. Une salle de lecture ouverte à tous, librement, un jardin, un café, voilà un endroit où l'on va pouvoir se plonger dans l'histoire et en même temps réinventer le monde.
Sous sa verrière, la salle ovale garde son atmosphère unique avec ses lampes bleues céladon, mais elle se dote aussi d'écrans numériques et on pourra même y lire 9000 bandes dessinées.
La bibliothèque Richelieu à Paris, rénovée et qui sera donc bientôt de plus en plus ouverte au public.
Merci beaucoup Hélène, on se retrouve demain.